Bonsoir. Notre émission de ce jour est la première d'une série de trois consacrée à l'adaptation radiophonique de l'ouvrage « Sous le fouet du destin » 1915-1916, ouvrage écrit par le mobilisé André Maillet à son retour de la guerre après sa blessure, puisqu'il dédicacera son ouvrage le 25 décembre 1917 à la mémoire de ses camarades du 23e régiment d'infanterie, tué à ses côtés dans les combats du 21 décembre 1915 au 15 janvier 1916. L'ouvrage parut après la fin de la guerre et il a été réédité en 2008 par l'éditeur Bernard Giovannangeli. Ouvrage très singulier et d'une grande force évocatrice de ce qu'il en a été de la situation des combattants, dont les trois émissions à venir vont couvrir à peu près l'intégralité de la deuxième partie du livre. Revenons à l'auteur. André Maillet est un des combattants qui a survécu au combat de l'Hartmannswillerkopf en Alsace à la fin de 1915. André Maillet était né en 1889 dans la commune du Vaudiou, dans le Jura, près de Foncine. Fils d'un sieur de Chaux-des-Crotenay, il se pique très tôt de poésie et d'une préoccupation mystique. À l'automne 1915, il est devenu professeur au moment où il est mobilisé et affecté au 23e régiment d'infanterie comme soldat de deuxième classe alors que la guerre est déclarée depuis un an. En partant, il est animé d'une curieuse perception des choses qu'il formalise dans le prologue de son ouvrage « Sous le fouet du destin », citation. « Allons, debout, finis la vie solitaire, finis tes vaines et stériles angoisses, ton dilettantisme, tes vanités et ton égoïsme, tu n'existes plus pour toi-même, les individus n'existent plus que pour ceux qui demeurent et pour ceux qui viendront, c'est l'ère des grands sacrifices. Allons, hâte-toi, je suis l'âme de ta patrie, je suis ton destin, endosse la livrée des guerriers que je mène, prends un fusil et des cartouches, puis en route pour le devoir sacré. Et je suis parti plein d'enthousiasme pour les jours héroïques. » Ce préambule laisse perplexe, en même temps qu'il nous paraît totalement reflété, après la lecture de nombreux témoignages, carnets de guerre et courriers, le point de vue de beaucoup, beaucoup des combattants en très grand nombre imprégnés de l'idéologie dominante, de la défense de la patrie et de la barbarie de ceux d'en face. André Maillet, à sa mobilisation, est envoyé sur le site de La Fontenelle, lieu d'âpre combat fin 14 et début 15, avec à ce moment-là quelques milliers de morts. À l'automne 1915, il arrive sur ce site où la situation est devenue plus calme et où on conforte les positions. Mais à Noël 1915, le voilà déplacé vers un site inconnu. Ce sera la ligne de front du Hartmannswillerkopf, sommet dominant la plaine d'Alsace, au niveau de Mulhouse, qu'il s'agit de reconquérir. Et il va se retrouver engagé dans l'enfer des combats de fantassins dont il rapporte, survivant de hasard, ce témoignage de la réalité du vécu de ces malheureux. Son récit donne une idée de ce qui était à vivre par ces millions de combattants forcés. C'est en puisant dans cette partie de son ouvrage de mémoire que nous réalisons la première de cette série de trois émissions grâce à la participation d'André Bonhomme qui a bien voulu interpréter ce texte à partir de notre adaptation radiophonique de près de la moitié de l'ouvrage. Qu'il en soit largement remercié. Bonne écoute. Das Mädchen sprach von Liebe.
das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee.
Les régions infernales. Ô vous qui entrez, laissez ici toute espérance. Dante. 7 heures. Ma compagnie est en réserve. Elle ne fera pas partie des premières vagues d'assaut, mais elle attendra, à quelques centaines de mètres de nos lignes, le moment d'aller renforcer les unités d'attaque épuisées. Faut-il nous en réjouir? Est-ce une aubaine? La plupart de mes camarades qui ont la pratique du combat préféreraient partir avec la première vague. On a au moins un but fixé à atteindre. On sait ce qu'on nous demande et chacun peut tendre tous ses efforts vers l'objectif. D'autre part, on est plus rapidement hors de la portée des obus. On ne craint pas le marmitage intensif que fait l'ennemi en arrière des troupes qui attaquent pour détruire les réserves et les empêcher d'arriver. Restant ici, nous subirons donc des bombardements violents. Et puis, quand on aura besoin de nous, ce sera pour nous expédier sur le lieu où la lutte sera la plus terrible, où les difficultés à vaincre seront les plus nombreuses. On nous appellera au plus fort d'un engagement pour soutenir des troupes qui fléchissent sous la poussée du nombre ou sous l'intensité des rafales d'artillerie. Enfin, pour arriver sur le terrain du combat, il faudra traverser de meurtriers tirs de barrage. Nous ne sommes pas engagés immédiatement. J'en suis heureux secrètement, cependant que les camarades murmurent « Nous sommes toujours les sacrifiés. Nous sommes toujours au poste d'honneur. À la Fontenelle, c'était déjà la même chose. On nous fait terrer sous des abris grossiers, légers et peu sûrs. Un abri, la cagna où nous sommes. Un mur en pierre sèche, des rondins, une couche de tôle. Un 77, sans peine. L'arrêt durait en miettes. Pendant le bombardement, nous attendrons ici l'action ou le coup de grâce qui nous délivrera. Près de la porte d'entrée, un sapin coupé haché. Du sang frais a éclaboussé les pierres et laissé sur la terre des plaques rouges coagulées. 2 hommes ont été tués là par un obus il y a une demi-heure. Et je regarde ce sang et je cherche les âmes de ceux qui ne sont plus. La neige lentement recommence à tomber comme pour tendre un suaire à cette dernière journée d'automne. Les guerriers, comme les monstres d'acier, attendent le signal qui déclenchera les meutes infernales, le signal qui ralliera du fond de leurs atavismes tous les instincts de lutte et de meurtre et les lâchera vers les massacres. Comme les monstres d'acier, ils sont terribles, de toutes les puissances du mal qu'ils recèlent, de toutes les souffrances qu'ils pressentent, de toutes les possibilités douloureuses qui, dans leur être, sont prêtes à jaillir. Plus d'hommes, des démons, plus de beauté, plus de justice, plus d'amour, pas même de la haine. Ah! Dans quel monde étrange sommes-nous donc? Où sommes-nous? Où sommes-nous? De toutes parts se resserrent et m'étreignent les volontés de destruction qui m'entourent. C'est effrayant, j'étouffe. Pas un coin de ciel bleu, pas un coin d'espoir. Rien que l'immensité des horreurs à subir. L'abîme se creuse de plus en plus. Je suis entraîné vers le point où se heurtent élémentaires et brutales les forces qui gouvernent les mondes et les êtres. Et je sens que je suis aux régions infernales. On m'a envoyé à la tranchée de départ, en liaison. La tranchée est silencieuse. Tout est grave, recueilli. Des poilus achèvent sans un mot de mystérieux préparatifs. Dans quelques instants, la danse va commencer. On va attaquer. Ceux qui n'ont pas été à l'assaut ne peuvent connaître la magie de ces trois mots. Mais les ombres qui m'environnent les murmurent comme en un rêve. Et dans leur cerveau grouille toute la masse des horreurs qu'on peut voir un jour d'assaut. Parfois, au milieu de ces visions apparaît le profil d'un être cher à qui l'on dit passionnément un éternel adieu. L'imagination surexcitée fait vivre aux combattants par anticipation les scènes de carnage qui, dans le silence, se préparent. Certains, effarés, divaguent, sont devenus fous. C'est l'heure la plus critique, la plus tragique, la plus affreuse. Celle qui réclame le plus de courage, le plus d'héroïsme. Celle qui trempe les âmes, tant les volontés et fait du dernier soldat l'égal de tous les héros glorifiés par l'histoire. Mais la détente par instant se fait. On peut oublier la réalité de l'heure. On essaye de parler, de sourire. On s'accoutume à l'idée formidable. On vit familièrement avec elle. Les nerfs se calment. On redevient pour quelques minutes maître de soi. Puis on sent une ardeur nouvelle, la soif du sang, la soif du massacre. C'est un commencement d'ivresse que va achever tout à l'heure l'ébranlement du bombardement et l'odeur de la poudre. Chacun regarde sa montre à tout instant. L'heure approche. Avec une inouïe rapidité, c'est l'heure. Des ordres brefs sont donnés, et comme chacun les attend, ils sont promptement exécutés. Aux abris! Le bombardement va commencer. Les Boches, en face, n'en savent rien, et continuent leur vie coutumière, bien que, ironiquement, se dresse sur leur parapet une pancarte placée pendant la nuit, avec cette inscription « À quand votre fameuse attaque ?» Les poilus regagnent leur sape et des sentinelles espacées sont laissées seules dans la tranchée pour surveiller les lignes ennemies pendant le bombardement. 9 heures. C'est la minute angoissante. Assis sur leurs talons, au fond de leurs abris, sans dire un mot, les hommes attendent. Les sentinelles sentent passer sur leur corps un glacial frisson. Puis, crac, un ébranlement inimaginable. Et la tranchée ennemie s'écroule avec fracas. Des monceaux de terre, des poutres, des créneaux, des fusils, des membres humains volent en tourbillons noirâtres et retombent sur des cadavres. Un immense cri de douleur retentit. puis une nouvelle rafale arrive qui l'étouffe en continuant l'œuvre de la première. Et l'avalanche d'obus de gros calibre, de torpilles qui écrasent tout, faisant jongler les rochers et les rares sapins debout comme des fétus de paille, continue sans arrêt, méthodique, effroyable. On ne distingue plus, dans le gigantesque vacarme, ni le tonnerre des centaines de pièces qui crachent la mitraille, ni le bruit d'explosion des projectiles. C'est un vaste roulement de tambour ininterrompu, une débauche de sons amplifiés, multipliés par l'écho, tel que ces monts n'en entendirent jamais. Les explosions violentes et précipitées des obus qui arrivent au point de chute secouent la terre, comme si elle allait brusquement s'ouvrir sur un volcan, déchire les oreilles et le cerveau, tiraille les chairs brutalement. Les tempes battent à coups pressés. Il semble que les vaisseaux sanguins vont éclater. On respire avec peine. On étouffe. Sera-ce bientôt la fin ? Non. De longues heures encore durent le supplice. La trompe de fer balaye tout sur son passage, rabote le terrain, nivelle les tranchées, écrase les blocos, hache les réseaux barbelés, émiette les chevalets de frise. L'heure de l'assaut approche. Les pionniers et les sapeurs du génie apportent de courtes échelles qu'ils dressent dans la tranchée tous les 2 ou 3 mètres. L'équipe des bombardiers, armés de revolvers et portant chacun 2 musettes de grenades, se préparent. Dans 2 minutes, le bombardement va cesser. En avant ! En sautant sur le parapet, à l'aide de leurs échelles, les grenadiers bondissent vers la première ligne ennemie, pendant que les poilus, sortis de leurs abris, trépignent fébrilement en attendant l'ordre de départ. Ils arrivent à la tranchée Bosch. Ce n'est plus qu'un amas de sacs crevés, de poutres enchevêtrées, de cadavres hideux. Pas un vivant, pas un blessé, pas de résistance. Le chef bombardier fait un signe et la masse prévenue des poilus surgit en hurlant. C'est le grand moment. L'avalanche vivante roule irrésistible à travers des débris innommables. Qui peut bien l'arrêter ? Les hommes glissent sur les rochers, disparaissent dans les trous d'obus, escaladent les troncs d'arbres, les sapins couchés en un enchevêtrement inconcevable, trébuchent, le pied accroché à une ronce métallique, tombent, se traînent, se relèvent, la capote déchirée, les mains ensanglantées couvertes de terre, et poursuivent leur course effrénée vers le but qu'ils doivent atteindre, qu'ils atteindront. Coûte que coûte. Toute notion de danger a disparu. Plus d'émotion, plus de crainte. On n'a pas le temps de penser. On est tout entier pris par l'action. On n'a qu'une idée, celle d'arriver et de vaincre. L'artillerie ennemie qui jusqu'alors a cherché nos batteries, avertis de leur critique, ouvrent immédiatement un violent tir de barrage pour enrayer notre avance. Inutile. Pendant que les fantassins arrivent aux premières lignes, les bombardiers volent aux secondes. Des morts et des blessés, quelques coups de fusil. Un nouveau bond et les voilà, à la 3e tranchée. Mais alors la lutte commence. L'ennemi moins atteint se défend. La fusillade se déclenche. Les mitrailleuses, dont les abris n'ont pas été détruits, fauchent les assaillants et la vague oscille, hésite, s'arrête, se couche et rampe. Les obus tombent rageusement. Les bombardiers se glissent vers les fortins, et les attaquants à la grenade font sauter les derniers centres de résistance et les derniers repères de mitrailleuses. Les poilus reprennent leur course. Quelques boches se sauvent, mais ils sont écrasés par notre artillerie qui fait un tir de barrage en arrière de leur ligne. Beaucoup lèvent les bras en hurlant « Camarades !» La troisième tranchée est prise et en avant. On n'a pas le temps de reprendre haleine, pas le temps de boire à sa gourde une gorgée d'eau de vie. À l'assaut, chaque seconde a son prix. Le terrain que l'on aborde est encore assez boisé. Des balles venant on ne sait d'où portent juste. Chacune d'elles abat un homme. Où sont donc ces bons tireurs ? Sur les sapins. Ils ont eu l'audace de grimper sur les sapins. La mitrailleuse immédiatement braquait les fauches et, comme des fruits mûrs, ils tombent sur le sol avec un son mat. On est arrivé au but fixé, il faut s'arrêter. Les officiers ont de la peine à retenir leurs hommes qui, enivrés par le succès, veulent continuer leur course victorieuse jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils ne rencontrent plus de boches, jusqu'à ce que tous ces sauvages soient exterminés. Cet arrêt est dur, mais il faut s'y résigner. On ne peut aller plus loin sans compromettre le succès et le faire dégénérer en catastrophe. Il ne suffit pas de prendre une position, il faut pouvoir l'organiser défensivement, la tenir. Et puis les camarades des ailes n'ont pas été aussi heureux que nous. En arrière, à droite et à gauche, la résistance boche est sérieuse. La fusillade est vive. Deux forteresses ennemies armées de canons revolvers et de mitrailleuses, l'Irstein et le Riffelsen, tiennent bon. Et devant elles, les bataillons de chasseurs fondent comme la cire au soleil. Après l'assaut et sous la mitraille, au travail. Chaque guerrier se transforme en terrassier, en pionnier. On creuse avec les outils portatifs pendus au ceinturon des retranchements individuels qu'on reliera par la suite pour former la tranchée. On organise ainsi les premiers travaux de défense en attendant la nuit et l'arrivée des renforts armés de pelles et de pioches. Et il faut agir vite. L'ennemi ne se tient pas pour battu. Notre œuvre offensive est achevée. La sienne va commencer. Il va contre-attaquer, essayer de nous refouler et concentre, malgré le feu de notre artillerie, ses troupes de choc. Fébrilement, chaque combattant agrandit son trou, utilisant au mieux les accidents de terrain. La dépense d'énergie qu'il a fallu fournir jusqu'ici a épuisé, semble-t-il, l'organisme. On sent la fatigue engourdir les membres sur lesquels collent les vêtements glacés. On voudrait se coucher sur la terre sanglante et boueuse au milieu des cadavres et dormir. Mais cela est interdit par l'ennemi sous peine de mort. Et l'instinct de conservation heureusement triomphe. L'aiguillon de la nécessité fait des prodiges. Soudain, dans la nuit qui descend, et sous la pluie fine qui tombe, des ombres en rang serré approchent sans bruit. Les voilà, feu ! Et les mitrailleuses, installées en hâte, crachent la mort. La fusillade crépite, les grenades et les pétards éclatent. Les batteries de 75 prévenues hachent les assaillants, formant en arrière d'eux un barrage de feu qui rend toute retraite, sinon impossible, du moins très meurtrière. Ce sont des cris, des hurlements, une clameur sauvage que ne parvient pas à couvrir le tintamarre de la mitraille. Trois fois les Boches reviennent à la charge, trois fois leur élan est brisé. Ce qui reste des ombres au casque à pointe se replie comme il peut. Tout rentre dans le calme, un silence poignant que perce par instant un râle ou un cri de détresse. À l'extrême limite du champ de bataille, au milieu des morts et des mourants, à la lueur brusque et sinistre des explosions, à celle plus sinistre encore que projette dans le ciel noir un village qui flambe, nous tenons le terrain conquis, que nous défendrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous les poilus harassés, sanglants et boueux, les vainqueurs. Ma compagnie a passé la première journée à la première nuit de la bataille dans ses abris. Une demi-section seule a disparu, hachée par un obus. Et nous voici au seuil du deuxième jour, prêts à entrer dans la fournaise. On nous a distribué des sacs à terre, des grenades. J'ai un couteau de nettoyeur de tranchées. Là-haut, sur le sommet du vieil armement, la bataille a repris et fait rage depuis l'aube. Les Boches ont contre-attaqué, profitant des ténèbres. On parle d'un régiment fait prisonnier. Le Reifelsen et l'Erstein tiennent toujours, bien qu'aux trois quarts cernés. Voilà du travail pour nous. Il est passé, durant la nuit, plusieurs centaines de prisonniers ennemis avec des hurrahs joyeux de délivrance. Et les poilus regardent s'éloigner les derniers qui s'en vont avec cette phrase d'envie. Les vénards. Soudain, notre lieutenant surgit sur le seuil de l'abri. Tout notre sang bondit. Une idée dans tous les cerveaux. Ça y est. Alerte. Crie-t-il d'une voix blanche. Grand branle-bas. Les démons, sans un mot, nerveusement, sautent au râtelier d'armes, endossent leurs sacs, bouclent leurs courroies. Le remous se fige. Une froide résignation essaye d'apaiser le tumulte du sang qui frappe à coups puissants les tempes, la révolte de la chair qui frissonne, les spasmes de l'angoisse qui serre sous son poing crispé tous les cœurs. Prêt, prêt. L'officier sort, mon sergent le suit. Je m'engouffre dans son sillage avec derrière moi toute la section à la file indienne. Autour de nous, la tempête infernale fait rage, un grondement formidable, un râle immense de la montagne. Des obus éclatent partout, sur nos têtes, à nos côtés. Nous sommes happés par la bataille au sortir de notre trou. Les percutants s'écrasent sur les rochers ou creusent des entonnoirs gigantesques, projetant des gerbes de terre, de pierre et d'acier qui obscurcissent l'air et le déchirent. Les arbres brisés bondissent, rebondissent en craquant. la forêt tremble en proie à de rageuses convulsions. Je raidis mes muscles, je serre les dents. Le cerveau est en ébullition. Toute la vie bat sous le crâne, se concentre dans le regard. Et les yeux projetés hors des orbites, sous la poussée des énergies tendues, lancent des flammes. Et nous courons, pliés en deux. Le fusil dans la main droite, la main gauche sous la musette de grenade qui danse une farandole effrénée. À gauche, des tombes, des croix, le cimetière. Des monceaux de cadavres apportés là durant la nuit. Les obus le labourent, les croix sont fauchées, les tumulus éventrés. Soudain, l'entassement des morts que je regarde s'élargit, fait explosion, une pluie noire. Je ferme les yeux aveuglés par un jet de terre humide qui cingle ma figure. Un souffle violent me fait hoqueter. Un déchirement de l'ouïe, une tension de tous les muscles. Une demi-seconde. Des formes se relèvent. Personne n'a de mal. À droite, une ombre semble sortir brusquement de terre, des hommes autour, notre colonel. Il dirige l'expédition des renforts que vient de réclamer la défense de la crête sur le point d'être brisée. À côté de lui, une cagna, son poste de commandement. Impassible, sous la mitraille, il donne des ordres. Et son regard perçant comme un stylet semble défier la mort. Mais je me dis, pourquoi reste-t-il là? Il va se faire tuer. L'entrée d'un boyau, des hommes surgissent, enveloppés de linge blanc, tachés de rouge. Des bras en écharpe, des têtes bandées sommairement. Les blessés descendent, hagards, fous. Un commandant sans casque, les cheveux hérissés, la mâchoire inférieure fracassée et pendante, les yeux désorbités, toute la face rougie de sang qui coule sur la capote boueuse bondit. Je le regarde une seconde. Le colonel, la tête rejetée en arrière, lui lance « Ça ne va donc pas là-haut ?» Et le spectre sanglant secoue sa tête affreuse et disparaît. Les blessés qui le peuvent se traînent et fuient le lieu de massacre où nous allons. Nous n'avons pas fait 10 mètres au pas de gymnastique et nous avons vécu toutes ces horreurs. Nous pénétrons dans le boyau. Un corps est étendu, roulé dans la boue. Dans la course, j'ai mis mon pied sur ses chairs flasques et je m'arrête brusquement, terrifié. N'y fais pas attention, me dit Cassis, qui me suit. Soudain, devant moi, un bruit sec d'acier. Un casque roule. Une forme bleue s'affaisse, se relève, rebrousse chemin, un trou sanglant dans la nuque. « Mon lieutenant blessé !»« Ce n'est rien, » me dit-il avec un sourire, pendant qu'il part pour le poste de secours. Il a de la chance, lui. Et il est heureux, être blessé proprement, être tué proprement, ne pas traîner dans la boue qui vous englue. Et je rêve d'être tué comme cela, en pleine course, en pleine lumière. Des cadavres, partout des cadavres. Toute ma chair frissonne, toute ma chair crie sa révolte. Suis-je fou? Sont-ce des visions de cauchemar? Est-ce vrai? Est-ce de la réalité? Ah! Où suis-je? Où suis-je? Tuer des hommes. Quelle horreur! Est-ce possible? Tout ce que j'ai d'humain se dresse contre ces crimes. La mort est partout. Invisible, les morceaux de fer arrachent indistinctement les rochers, les arbres et les têtes humaines. La matière est terrible, déchaînée, elle se venge de notre supériorité. Supériorité? Il n'y a ici de supérieur que sa puissance, aveuglement féroce de destruction. De chaque côté, le boyau élève son mur de terre. Il est écroulé par endroits, obstrué par des cadavres qu'on rejette sur le parapet pour pouvoir passer, par des sacs, des casques, des souliers arrachés avec les pieds, des lambeaux de chair humaine, des fusils, des arbres enchevêtrés. Un gros sapin en travers barre le passage. Cassis, qui à présent est devant moi, si petit, hésite. Ceux qui nous suivent pressent, nous poussent. Cassis tremble, me regarde, et avant qu'il n'ait pu faire un mouvement, me servant de son dos comme d'un marche-pied, j'escalade le sapin. Je me relève et continue ma course. Toute la section suit. Nous descendons, où allons-nous? Au fond du ravin. Un ruisseau torrentueux, un pont de bois. De l'autre côté, des hommes étendus. Les premières sections de la compagnie nous attendent pour reprendre l'escalade. Devant nous, la pente rude de l'Hartmann, sillonnée par un boyau de communication, le seul qu'encombrent les troupes montant en renfort. Les blessés, les prisonniers qui descendent, et que labourent sans arrêt les obus de gros calibre. Le bombardement est de plus en plus violent. En avant! L'escalade commence au pas de course. La montée est terrible. Le sac est lourd, écrasant. Ses courroies m'étouffent. J'ai envie de le lâcher. Comme ont jeté le leur la plupart des camarades, mais je pense qu'il m'est utile pour tout ce qu'il renferme et qu'il pourra me servir de bouclier. J'en puis plus, faut aller tout de même avancer toujours. Qui me le dit? Qui me pousse? Où sont les chefs? Où sont les camarades? Autour de moi, rien que des spectres qui s'agitent. Je distingue nettement la force qui m'attire à la tuerie, soutenue en direction et en intensité par ma volonté, et la lutte contre cette force de toutes les puissances instinctives de mon être, de mes muscles fatigués, de ma chair qui ne veut pas mourir. Et je vais toujours. Je m'appuie sur la crosse de mon fusil, je rampe. Je me traîne sur les coudes, sur les genoux. Les nerfs sont exaspérés par les continuelles explosions qui se resserrent de plus en plus. Je sens subitement que c'est fini, que je ne sortirai pas de l'engrenage, et que la machine infernale qui broie autour de moi les corps par centaines broiera aussi le mien. La mort ne prend plus de forme. Je l'attends à chaque seconde. Je ne pense à rien. Mais je me surprends à dire inconsciemment: Maman. Maman. Et je sais que si je suis touché, ce sera mon dernier cri d'adieu au monde et à la vie. Un groupe est arrêté devant une cagna où il s'engouffre. Une grande forme, un lieutenant de chasseurs, fait à ceux qui rampent des signes de ralliement. Que dit-il? Courage, vous y êtes, abri, repos. Il étend le bras pour nous montrer la sape qui nous est désignée, et comme je le regarde, je ne vois pendant une seconde qu'un spectre sans tête, un bras arraché, l'autre tendu, qui chancelle et s'affaisse. Un éclat d'obus l'a décapité. Je passe près de lui, je le regarde. Je regarde le sang qui coule, fumant. Hébété, sans une émotion, je saute dans le trou où grouille déjà la lueur d'une bougie, quelques ombres démoniaques. D'autres corps tombent, je reconnais Morion, Cassis, Guillaume. Nous nous entassons, nous étouffons. Nous ne nous parlons pas. Le pouvons-nous? Mais que dire? Que veut-on de nous? Que faisons-nous ici? Où allons-nous? Je me le demande. Les camarades ont la tête enfoncée entre leurs genoux. Et dehors, partout, les obus tombent en rafale, balayant tout, écrasant tout. Le soir commence à descendre et le bombardement n'a pas cessé. Nous travaillons sous la pluie de fer à organiser la défense de la position pour que les troupes de la crête s'y replient si l'ennemi les déborde. On sent, on devine, on se dit que là-haut, la situation est critique. Et l'esprit tendu, j'écoute la fusillade intermittente qui mêle sa note aiguë au concert de l'artillerie. À l'intensité, à la rapidité, à la progression en étendue des coups de fusil, je juge d'une attaque. J'en suis au son, toutes les phases, jusqu'à son évanouissement. Nous savons ainsi ce qui se passe par la voix des engins qui explosent. Nous pouvons imaginer dans les principaux secteurs le flux et le reflux des vagues d'assaut et avoir une idée, peu précise, mais une idée, de la marche du combat au soir du deuxième jour de la lutte. La ligne de démarcation des deux armées est confuse, complexe. Elle oscille à chaque heure. Où sont exactement les positions Bosch? Où sont les nôtres? Des unités sont en pointe chez l'ennemi, presque cernées. Des unités Bosch pénètrent dans nos positions. Quel est le chef qui peut avoir sous les yeux le plan de la bataille et en suivre sur le moment les diverses péripéties? Les fils téléphoniques sont coupés. Ceux qu'on pose en hâte sont aussitôt hachés par les obus. Comment avoir des renseignements? Comment pouvoir donner des ordres, envoyer des renforts? Que la tâche du commandement est ardue. Un lieutenant, depuis 2 heures, a pris la tête de la compagnie. Notre capitaine vient d'être évacué, la mâchoire broyée par un éclat d'obus. Je regrette cet homme énergique qui avait mérité toute notre confiance. Il me semble subitement que ma compagnie est sur une mer démontée, une barque sans gouvernail, flottant à la dérive, prête à sombrer. Aux abris ! Les rafales d'artillerie sont de plus en plus pressées. Il fait nuit. C'est l'heure propice au coup de main. Nous sentons que c'est notre heure. Aux abris! Et nous nous ensevelissons dans les trous obscurs, humides et puants.
Eine Träne war mit mir.
Christ beseite Führ und Führung mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen? Meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen? Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen, treue
La demi-section est là, entassée dans un abri d'artillerie recouvert de deux rangs de gros rondins, eux-mêmes surmontés d'une couche de terre et de pierre de plus d'un mètre d'épaisseur. L'eau suinte et coule sur les parois, glisse sur la terre battue où nous sommes affaissés, pourrissant des débris de toutes sortes laissés par combien de guerriers qui ont attendu là avant nous l'heure que nous attendons. À la lueur d'une bougie dont la flamme vacille et s'éteint souvent après une explosion trop proche, nous dormons exténués, énervés, car le principal effet du bombardement est de nous endormir. Dehors, dans la nuit que déchirent les grosses marmites qui passent en râlant, les obus de tout calibre éclatent sans arrêt partout. En tombera-t-il un sur notre cagnat? Pourquoi pas? Pourquoi ce petit coin de terre serait-il préservé alors que tous les autres sont bouleversés? Et si une marmite tombe, nous sommes tous écrasés. Je regarde au-dessus de ma tête les gros rondins humides, noirs et menaçants. Je regarde la bougie qui tremble et que rallume souvent une ombre qui veille, gardienne du feu sacré. Je regarde une à une les gouttes d'eau tombées qui martèlent le temps et mesurent nos heures, clepsydre infernal dans un monde infernal. Je regarde les camarades qui dorment entassés, courbés, la tête appuyée sur les genoux ou sur l'épaule du voisin, les traits tirés par la fatigue et l'émotion. Je regarde ce troupeau de damnés, je suis effrayé. Dans quel rêve ai-je déjà vécu ce tableau? Je fais effort pour résister à l'engourdissement qui m'envahit. Je veux être éveillé quand l'inévitable 210 viendra nous engloutir et quand l'ordre fatal qui nous poussera plus loin viendra nous bousculer. Car il arrivera. Nous ne sommes pas ici pour nous reposer. Nous attendons l'action. Nous agirons cette nuit même, dans quelques heures, dans un instant peut-être. Et que ferons-nous? Où irons-nous? Pendant que j'échafaude toutes les possibilités de lutte, pendant que je regarde le sommeil angoissé de mes camarades dont les doigts crispés tiennent le fusil, le fameux ordre attendu et redouté arrive. Des pas précipités, un bruit de course sous la rafale, la toile de tente qui ferme l'ouverture de l'abri est soulevée, une tête apparaît et une voix lance le mot fatidique « Alerte !» Puis l'ombre disparaît, court, jetée partout, dans tous les trous, sur le sommeil de tous les guerriers, le cri d'alarme « Alerte ! Alerte !» crie le sergent réveillé « Alerte ! Alerte ! » interroge des voix qui semblent sortir d'un tombeau. Les yeux effrayés s'ouvrent, cherchent à comprendre. Et c'est la même scène, indescriptible, de tous ces réveils à la réalité tragique. On se prépare nerveusement. On met en bandoulière la couverture roulée dans la toile de tente. On prend quelques biscuits, des cartouches, des grenades, et on laisse les sacs. « Amorcez vos grenades !» nous lance brusquement la voix du lieutenant, dont la tête émerge de l'ombre. « C'est fait. En avant !» Nous sortons l'un après l'autre de l'abri, et nous bondissons vers la crête où l'attaque Boche est déclenchée. Les obus déferlent devant nous en rafale. « Halte ! Halte !» disent l'une après l'autre les ombres qui me précèdent. « Halte ! » fais-je passer. « Halte ! » répète-t-on derrière moi. Et au fond du boyau bouleversé que nous suivons, nous nous collons immobiles dans la terre qui nous enlise. Les rafales sont de plus en plus serrées. Après chaque série d'explosions, un grand cri, des cris horribles, des appels, des râles qui étouffent les vagues suivantes. Ah, les camarades! Le sang se glace dans les veines, la sueur coule, partout du noir, de la boue, des enchevêtrements de poutres, des trous, des odeurs de poudre et de cadavres, des odeurs de caveaux. Partout les ténèbres qui illuminent des gerbes subites de flammes qui jaillissent, pressées, sanglantes. Un ordre circule. Faites avancer les bombardiers. Des hommes porteurs de sacs de grenades nous enjambent, marchent sur nos corps sans que s'élève un cri de douleur. Ils sont froidement résolus. Allons, la danse va commencer, me dis-je. Pourtant, le bombardement se ralentit. La fusillade meurt, et on aperçoit les derniers spasmes. L'attaque Boche est refoulée, et nous allons sans doute reprendre à l'ennemi les éléments de tranchée qu'il a pu conserver. Je me vois déjà rampant dans la terre bouleversée, me battant à la grenade et au couteau, car dans ces endroits et dans ces moments, inutile de songer à l'emploi du fusil et de la baïonnette. Les ombres devant moi se lèvent, bondissent. Je m'attends à être lancé dans la fournaise. Plus d'émotions, plus de nerfs, plus de rêves. Rien qu'une froide détermination. Je cours. Je vois la file des ombres escalader le boyau. Je vais l'escalader à mon tour. Qu'y a-t-il derrière? Où sommes-nous? Que va-t-il arriver? Je saute sur le parapet et je roule sur une pente. Je viens de franchir la crête de l'Hartmann.
23 janvier 1916, nous souffrons comme des écorchés. Le carnage sur la braise consume les désespérés. Les jours de pluie au vent glacial afflige l'ardeur des soldats. Sur les sentiers plus d'idéal, la douleur traîne ses combats. 26 janvier 1916, je pleure pour nous, ma bien-aimée. Notre amour sur la falaise vague sur la mer des regrets. Tes lettres tachées par le temps détournent la peur de mes yeux. Elles parlent des soirs de printemps où la lune éclairait nos vœux. La brume s'étend sur les morts. Les canons jamais ne se taisent, la frayeur jamais ne s'endort. Dans le couloir des premières lignes, la vie se retire à genoux. Dans ce couloir, rien n'est un signe, la création crève dans la boue. 29 janvier 1916, je pleure pour nous, ma bien-aimée. Les tendres nuits de la Corrèze n'endormiront plus nos baisers. Dans les tranchées, le bleu est gris, et rien ne ressemble à ce vert, celui que l'automne jaunit avant les grêlons de l'hiver.
Vous venez d'entendre notre émission, qui est la première d'une série de trois, consacrée à l'adaptation radiophonique de l'ouvrage « Sous le fouet du destin, 1915-1916 », ouvrage écrit par le mobilisé André Maillet à son retour de la guerre après sa blessure, puisqu'il le dédicaça le 25 décembre 1917 à la mémoire de ses camarades du 23e régiment d'infanterie, tué à ses côtés dans les combats du 21 décembre 1915 au 15 janvier 1916. André Maillet est un des combattants qui a survécu au combat de Larsmann-Villerkopf en Alsace à la fin de l'an 1915. Il va se retrouver engagé dans l'enfer des combats de fantassins, dont il rapporte, survivant de hasard, ce témoignage de la réalité du vécu de ces malheureux. C'est en puisant dans cette partie de son ouvrage de mémoire que nous avons réalisé la première de ces trois émissions, grâce à la participation d'André Bonhomme, qui a bien voulu interpréter ce texte à partir de notre adaptation radiophonique de près de la moitié de l'ouvrage. Qu'il en soit largement remercié. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre des intermèdes musicaux qui était constitué d'extraits de différentes pièces du Voyage en hiver de Franz Schubert sur un livret de Wilhelm Müller dans l'interprétation de Dietrich Fischer-Dieskau. Et juste précédemment, vous venez d'entendre la première partie d'une chanson dont le titre est 1916 de François Garnier interprété par Tichot. La prochaine émission sera consacrée à la suite du récit de André Maillet. Bonsoir. Thank you.
Thank you.